le spectacle de leurs interminables discussions lors des derniers étés à Kerbihan l'avait empli de joie. Ils adoptaient en ce lieu qui leur était familier un rythme quotidien et voilier, plutôt tranquille, qu'elle ne pouvait en rien intensifier. Ils étaient de jeunes adultes et d'éventuelles exhortations maternelles seraient demeurées lettres mortes. Ils n'étaient pas extrêmement sportifs, ni trop voiliers, ni trop cyclistes, mais en revanche, ils marchaient aisément. Ils déambulaient, ils se promenaient, prenaient l'air, tout simplement, pendant de longs moments, et Maud, lorsqu'elle les apercevait par hasard sur la digue ou sur la plage, dans les rues ou devant le petit bassin fréquemment asséché de Port-en-Gif, éprouvait une intense sensation de bonheur. Ils marchaient côte à côte, ils étaient tranquilles, et ils parlaient, sans jamais, semblait-il, devoir s'arrêter. Maud se demandait ce qu'il pouvait bien trouver à se dire pendant des heures. Ils parlaient comme des amis absolument exceptionnels, de ceux que l'on se fait une seule fois dans sa vie. Maud savourait. Elle supposait que leur profonde amitié fraternelle les rendait plus forts dans l'instant présent, mais aussi, avec un peu de chance, pendant un long avenir, tant que cette amitié durerait. Maud les voyait sur la plage, marcher devant elle. On devinait la mer plus qu'on ne l'apercevait. La lune, presque pleine, diffusait une lueur diaphane. Le couple des deux frères ouvrait la marche. Ils bavardaient, une fois de plus, calmes et détendus, mais ce soir-là, comme lorsqu'ils s'étaient baignés et avaient été aperçus par Maud, ils étaient trois, et non plus deux. Quelques pas derrière eux, une plus petite silhouette les suivait, dont l'attention tout entière était tournée vers Luc. Le même sentiment de tendresse traversa le cœur de Maud. La jeune fille gravitait, tel un satellite, autour de son fils. Maud était touchée par sa dépendance qu'elle ne cachait pas. Elle était émue parce que Delphine était en retrait, au moins pour un temps. Elle attendait avec confiance, avec patience, que celui qu'elle avait choisi, celui qu'elle aimait, lui accorde une place future, privilégiée et plus satisfaisante. Un tournesol la nuit oriente ses pétales vers l'est pour les offrir au matin à la lumière. Chapitre 3. Sandalette. À table, s'égosillait Maud le soir au bas de l'escalier lorsque le dîner était prêt. Elle s'amusait à jouer à Madame Fabienne Lepic, la bourgeoise sage et conventionnelle de la série Fais pas ci, fais pas ça, l'un des grands succès télévisuels du moment. Le générique tout à fait drôle mettait en scène au début de chaque épisode la péremptoire maîtresse de maison, poing sur les hanches, qui lançait alentour ses vigoureuses exhortations au rassemblement. Maud appelait, tout comme Madame Lepic, ces trois jeunes qui étaient le plus souvent à leur étage au niveau supérieur de la maison. Elle éprouvait le plaisant sentiment d'interpréter un rôle dont elle n'avait pas l'habitude. Elle avait, pour sa part, trouvé plus simple dans le passé de servir les garçons dans leur chambre. Ces pratiques s'étaient récemment normalisées avec l'arrivée de Delphine dans le cercle familial. L'on dînait désormais autour de la table de la salle à manger lorsque Luc et Delphine s'invitaient boulevard de Tessier. En vacances, la performance du repas quotidien partagé avait été atteinte. Maud s'appropriait l'intonation et l'attitude de la femme, observant une organisation des plus courantes. Ce comportement lui semblait à la fois original et distrayant, mais était-ce bien elle qui remplissait cette fonction nourricière, de façon somme toute très classique, alors que Thibault imaginait les menus, faisait les courses et préparait les repas. Maud se cantonnait à des tâches d'intendance plus rudimentaires, consistant à mettre la table, à la débarrasser et à nettoyer la cuisine. Elle participait bien évidemment, autant que faire se pouvait, à la conversation, une tâche, selon elle, éminemment importante. Maud avait commencé le jeu de ses appels extravertis pour le dîner la toute première fois où ils furent cinq autour de la table. Delphine était arrivée la veille à la gare d'Auray, Romain descendit d'abord, puis Luc, et enfin Delphine. Elle portait ce soir-là une jolie petite robe d'été et de mignonnes sandalettes avec de fines brides dorées visiblement neuves. « Elles sont charmantes, tes sandalettes, » s'était extasiée Maud, « saillantes, féminines, vraiment tu as bien choisi. » Maud avait imaginé l'enthousiasme de Delphine faisant ses achats dans les boutiques. La jeune fille avait sans doute été moins libre dans son passé d'enfant, de jeune fille, puis d'étudiante. Son budget mode ou simplement vestimentaire était alors celui de ses parents. Elle occupait son premier emploi depuis quelques mois et Maud l'avait supposée fière et joyeuse de disposer d'une récente et appréciable autonomie financière. Elle s'était également représenté l'état d'esprit de Delphine, contraire au sien propre, lorsqu'elle avait le même âge. Maud la voyait coquette, féminine et appréciant les magasins. Elle-même n'avait jamais aimé ce genre de réjouissance. Elle s'y était pourtant régulièrement adonnée dans sa jeunesse, contrainte qu'elle était par sa mère et plus encore par sa sœur aînée. Claire, sa mère, ainsi que Thérèse, sa sœur, l'emmenaient en expédition dans les centres commerciaux voisins. Maud essayait de s'y soustraire, mais Thérèse lui opposait une contradiction catégorique. Faire les boutiques était absolument nécessaire. Et puis c'était agréable. Et puis tout le monde le faisait. Et pourquoi Maud se serait-elle distinguée? Et pourquoi d'ailleurs n'aimait-elle pas? Maud s'inclinait. Et le pince-homme, sous la ferme autorité de Thérèse, s'éternisait. Maud avait, ensuite, implacablement fui les boutiques. Elle avait le sentiment que le commerce sur Internet l'avait sauvée de fastidieuses et détestables corvées. Les chaussures, les vêtements, les meubles, les produits alimentaires, d'entretien, ou d'hygiène corporelle faisait sans l'ombre d'un problème partie de ces enthousiastes acquisitions par numérique interposé. Mais elle se souvenait surtout qu'elle n'était pas heureuse du temps de sa jeunesse. Elle s'opposait, tout en n'osant pas l'exprimer, au modèle de ses parents. Elle le trouvait ennuyeux et conformiste. Elle se sentait sans illusion et fatiguée de vivre avant même de s'engager dans l'existence. Elle se croyait lucide. Elle souffrait bien plus probablement d'un tempérament dépressif affirmé. Telle est du moins son interprétation, quelques 40 années plus tard. Le caractère de Maud, à 24 ans, était à l'opposé de celui de Delphine. Celle-ci, toute contente des compliments de Maud, portait de nouvelles sandalettes. Elle les avait choisies avec plaisir. Maud aimait, sa spontanéité et son optimisme. Delphine n'avait peut-être pas, jusqu'alors, rencontré de problèmes existentiels majeurs, et peut-être possédait-elle, au fond d'elle-même, une touchante innocence. Sans doute rencontrerait-elle, à l'avenir, des difficultés plus ou moins graves, plus ou moins dramatiques. Mais à l'instant présent, Maud se réjouissait de cet état de grâce qui semblait l'habiter, lié à certaines jeunesses, point trop accidentées. Delphine était enthousiaste, pleine d'allant, d'illusion peut-être, de désir également. Et c'était elle qui accompagnait son fils au seuil de sa vie d'adulte. Maud savourait, elle mesurait sa chance en tant que mère. Chapitre 4. Cheminée. Le feu crépitait dans la cheminée de la grande salle. Il était 18 heures. La journée au grand air des parents, tout comme celle des jeunes, était terminée. Chacun allait, venait, vaquait à ses occupations et attendait tranquillement l'heure du dîner. Les flammes répandaient alentour une ambiance douce et intime lorsque tous les 5 se trouvèrent par hasard réunis dans le salon au même moment. Une remarque sur un sujet d'actualité fut alors lancée, légère et sans intention particulière. Maud ne manqua pas de réagir. Elle attrapa ces quelques paroles au vol, elle les relança comme elle aurait intercepté une balle pour la renvoyer à d'habiles partenaires et soudain se fit jour, comme par magie, l'alchimie du jeu réussi de la conversation. Les réparties fusèrent, elles s'enchaînèrent et rebondirent sur un rythme alerte et spontané. La remarque d'origine, de nature plutôt politique, les entraîna de réponses en répliques vers des domaines d'un genre économico-financier, en passant par des régions, côtoyant des interrogations d'ordre social, pour arriver à des considérations de philosophie morale, voire même existentielle. Mais si l'on y pense, disait l'un, l'analyse de Marx, ici, aurait du sens. Et puis regarde, ajoutait l'autre, la structure des modes de consommation est maintenant mondiale, alors à chacun selon ses besoins, n'est-ce pas l'avenir? Mais la notion de besoin, demandait un troisième, comment la définir? Et plus tard, les travaux d'experts hyper spécialisés exigeront un haut niveau de formation. Et seul un petit nombre d'hommes et de femmes extrêmement compétents pourra y prétendre. Et donc, à l'opposé, intervenait un autre encore, les tâches non qualifiées seront confiées à la machine. On y sera alors immanquablement au sein de la société universelle de l'oisiveté. La productivité augmentera et ce seront les mêmes toujours qui travailleront. Et ne crois-tu pas, reprenait l'un d'eux, qu'il faudra alors s'interroger? Est-ce qu'ils accepteront toujours ces hommes et ces femmes éduqués, sollicités, d'être à la tâche pour les autres? La joie circulait. Romain, Luc, Maud et Thibault intervenaient, parfois dans un semblant d'ordre, parfois en se bousculant au portillon de la parole sur le point d'exister. Le mode des échanges en famille était bien rodé lorsque s'épanouissait par chance le débat du moment. Celui-ci prenait alors de l'ampleur. Il développait une vie propre pour le plaisir de l'expression ou de l'écoute du prochain argument. Ce jeu de l'esprit, pour peu que les conditions favorables se trouvent réunies, enchantait Maud. Son mari et ses fils étaient au courant. Elle tentait, autant que faire se pouvait, de susciter ce type d'événement qui, de temps à autre, sans que l'on sût réellement pourquoi, émergeait sur le chemin de la vie. Chacun avait son mot à dire. Luc et Romain parlaient, les parents leur répondaient, et Maud, tout en participant activement à la discussion, sentait le regard de Delphine posé sur eux. la jeune fille demeurait attentive et silencieuse à la frontière du groupe. Elle observait le mode de comportement familial. Elle apprenait à connaître une forme de culture collective révélatrice tout à la fois de l'affection unissant les membres de la famille, mais aussi de certaines caractéristiques assez significatives du milieu social de son petit ami. L'art de conversation chez les Valentes n'atteignait certes pas un niveau exceptionnel. Il n'aurait su, par exemple, concurrencer le talent probablement remarquable en ce domaine de la très séduisante Julie Gayet. Les Valentes pratiquaient toutefois, selon toute apparence, plus spontanément ce jeu verbal que les parents de Delphine. La jeune fille observait, point trop étonnée, puisqu'elle avait vécu ces derniers mois avec Luc, non loin du boulevard de Tessier. Elle avait d'ores et déjà perçu que Maud se réjouissait en cas d'accélération verbale de ce genre. Cette même Maud ne se montrait cependant guère extravertie, si l'on parlait canapé ou table basse. Mais tout autre sujet de conversation, dès lors qu'il les réunissait tous, suscitait son enthousiasme. Delphine écoutait la discussion près du feu, dont les jeux d'ombre et de lumière dansaient sur les poutres basses du plafond. Elle demeurait en retrait. Cet environnement ne lui était pas coutumier. Maud comprenait sa réserve. La jeune fille était discrète et réservée. Maud la sentait curieuse et intéressée. Chapitre 5. Repas du dimanche. Luc connaissait bien Champval sur Allon, un petit village de Normandie où les grands-parents de Delphine possédaient une ferme. L'un de ses oncles en assurait l'exploitation, tandis que les autres frères et sœurs de sa mère travaillaient dans des entreprises de la région. Les repas du dimanche n'en finissent pas, racontait Luc à Maud lorsqu'il revenait d'un week-end normand. On est nombreux chez les grands-parents, avec les frères de Delphine, leurs petites amies, ses parents, ses oncles, ses tantes, les cousins, leurs petites amies, les cousines, leurs petits amis. Tu imagines un peu le monde autour de la table ? Et la conversation ? Demandait Maud. Comment ça se passe ?
Bien, répondait Luc. Ils parlent beaucoup, mais c'est différent, pas comme chez nous. Ils parlent des maisons, des agrandissements, des travaux, de l'entretien, du jardin, des voitures, de leurs achats, des bonnes affaires, des réductions, des soldes, ou d'un récent pique-nique dans un endroit aménagé, avec des tables, des chaises, des barbecues. Ils parlent, oui, mais en fait, uniquement de ce qu'ils font.
C'est plus concret, tu veux dire, plus factuel. Luc réfléchissait, puis approuvait. C'est donc ainsi, concluait Maud par de Verrelle. Les sujets sont matériels, palpables. Alors qu'il nous arrive parfois d'exprimer des idées un peu abstraites, non pas subtiles, non pas savantes, on s'amuse en fait, pour développer et convaincre, pour comprendre à notre façon, pour conclure, pour passer le temps. Pas chez Delphine apparemment. Delphine écoutait les arguments échangés devant le feu, dont l'odeur et la lumière évoquaient l'ambiance qui devait habiter la maison des années plus tôt. Elle était attentive. Sa famille et celle de Luc n'étaient pas la même.